Mets tes deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre.
C'est pas du tout ce que vous croyez. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas le souvenir un peu arrosé du passage à l'an 2022 au studio de Radio Chateaubriand. Pas du tout. C'est Alain qui travaille. Il fait un test audio pour m'enseigner que lorsque ça grésille, c'est qu'il y a des interférences. Ça me fait penser que j'aurais besoin qu'il me traduise une appellation nord-américaine. J'ai découvert l'accent anglois d'Alain à l'occasion du montage du chapitre 2 et j'avoue que je ne m'en lasse pas. Le problème, c'est qu'en ce moment, Alain, il est pas mal occupé. Je vais voir s'il peut pas me dépanner tout à l'heure par téléphone. Mais reprenons le fil. La chenille qui redémarre, chenille papillon, papillon une des acceptions de l'étymon de psyché, psyché psychanalyse. Ah oui, au cours du chapitre précédent, je me rendais compte que beaucoup confondaient psychanalyse et psychiatrie, psychologie, neuropsychologie. Du coup, pour distinguer ces différents domaines de la sphère psy et mieux définir les contours de la psychanalyse, je décidais d'aller à la rencontre de quelques professionnels et commençais par interroger Francis Pommier, un jeune retraité de la psychiatrie. Et si je lui laissais le soin de faire la transition avec l'émission du jour?
On va sans doute avoir plus de chances de rencontrer chez des psychiatres des gens dans une position médicale caricaturale, si je peux dire, avec tout le respect que j'ai pour eux. Et puis, chez des psychologues, des attitudes assez caricaturales aussi, des psychologues imprégnés de leurs études de psychologie. Et ils vont avoir une posture qu'on détecte rien qu'à les regarder. Et tac.
Profitez, demain, j'en interroge une.
D'accord. Bon, bah, ça, faut le passer.
Oh, surtout pas.
J'ai beaucoup de respect pour les psychologues. J'ai beaucoup d'amis psychologues et qui font un super travail.
C'est ça. Essayez de vous rattraper, docteur. Grâce à la magie de l'indirect, demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons entendre Coralie Chambon, psychologue spécialisée en neuropsychologie des enfants et des adolescents. Coralie Chambon exerce son métier depuis 2013 et travaille actuellement en libéral à Chateaubriand.
Est-ce qu'on peut mettre votre
téléphone ailleurs?
Ouais, ou en mode avion. Moi, je vais vérifier aussi le mien, parce qu'il y a une interférence.
En mode avion. Comment on fait ça? Hop, c'est bon.
Voilà, le mien, c'est pareil. Voilà, moi, c'est bon. C'est parti. Pendant plusieurs siècles, le discours des psychologues s'est confondu avec le discours des philosophes. Et en France, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, que la licence de psychologie a été créée. Il a fallu attendre 1985 pour que soit adoptée une loi qui dote les psychologues d'un statut légal et attendre encore quelques années pour que les décrets d'application de cette loi soient signés. Depuis lors, de quel diplôme faut-il être titulaire pour faire usage du titre de psychologue en France?
Il faut avoir en fait fait 5 ans d'études, donc ça fait un master 2. Aujourd'hui ça s'appelait comme ça, à une époque ça devait être DESS il me semble. C'est 5 ans après le bac en psychologie. Après vous avez différentes disciplines dans la psychologie pour vous spécialiser. Donc vous avez les cliniciens et vous avez les psychologues du travail, vous avez les psychologues développementaux. Et vous avez les cognitions et neurosciences. En général, ils sont associés, c'est pas toujours le cas.
Dans le cursus initial du neuropsychologue, il n'y a rien qui le différencie du...
Non, en fait, le titre, il n'existe pas en fait, de titre de neuropsychologue, ça n'existe pas. Il y a un titre de psychologue. Pour être neuropsychologue, il faut être psychologue. Il n'y a pas de titre de neuropsychologue. Par contre, en fait, pour pouvoir, se spécialiser dans la neuropsychologie, donc ça va être plutôt ça, en fait, ça va être dans la spécialisation à la neuropsychologie. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord en fait un cursus, notamment en Master 2, souvent orienté en neurosciences ou en neuropsychologie. Et puis ensuite, très souvent, les gens font aussi, les psychologues font un DU, donc un diplôme en plus, sur souvent 1 an ou 2 ans, en fonction du DU proposé, pour pouvoir en fait aussi avoir cette spécialisation en plus du cursus de psychologue.
Ce sont des disciplines spécifiques qui sont étudiées ou c'est plutôt des stages pratiques dans des domaines...
Ça va être des connaissances spécifiques en fait. Vous allez avoir beaucoup de neurologie, vous allez avoir aussi beaucoup de neurocognition, donc c'est-à-dire comment fonctionne le cerveau, quelle fonction on va avoir en fait en fonction de telle difficulté, parfois en fonction de telle lésion. Les neurosciences sont nées des traumas crâniens. Vous avez eu les difficultés liées à un traumatisme crânien qui ont engendré donc des difficultés cognitives, donc soit d'ordre attentionnel, d'ordre exécutif, ça fait partie des attentions, d'ordre parfois mémoriel, vous avez des problématiques de mémoire. Donc tout ça, ça a dû être défini, organisé pour pouvoir comprendre en fait comment le cerveau traite ces informations. Alors on est quand même sur quelque chose qui est encore... je pense qu'il est encore jeune, malgré tout. Mais de mon point de vue, quand même, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'avancées qui se sont faites sur ces dernières années. Et c'est hyper intéressant. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'existe pas encore un titre particulier de neuropsychologue, mais que ça viendra peut-être, c'est possible aussi.
Pour devenir psychologue, est-il nécessaire d'avoir fait un travail sur soi au préalable ?
C'est absolument pas obligatoire, mais à mon sens, c'est essentiel. Parce que pour pouvoir... être disponible, il faut aussi bien se connaître, quoi. Et même si vous n'avez pas vécu de traumatisme, d'énormes traumatismes dans votre vie, la thérapie sert aussi à ça, à pouvoir se connaître. Et à connaître ses réactions en fonction aussi de certaines difficultés que vous allez pouvoir rencontrer. On est tous plus ou moins sensibles en fonction de certaines difficultés que vous pouvez rencontrer. J'ai rencontré des psychologues qui pouvaient être plus ou moins sensibles, par exemple, aux difficultés liées à l'alcoolisme, d'autres vis-à-vis du viol, d'autres vis-à-vis, en fait, des enfants battus. Nos réactions ne vont pas être les mêmes en fonction de ces trucs-là. Il faut le savoir, il faut se connaître. C'est important.
Là, on a évoqué le titre de psychologue, la spécialité de neuropsychologie. Qu'en est-il des titres de psychothérapeute et de psychopraticien ?
Alors, je vais parler de ce que je connais.
Oui.
Pour être psychothérapeute, il faut soit être psychiatre, soit être psychologue clinicien, soit être connu comme psychanalyste avec la formation qui amène ça. Donc ça, c'est possible dans ce cadre. Dans ce cadre-là. C'est possible d'être psychothérapeute aujourd'hui, donc ça a été un titre du coup qui a été en fait légalisé sur les dernières années, je dirais il y a à peu près 10 ans, quelque chose comme ça. Mais avant, il n'était pas du tout encadré, donc effectivement, il y avait beaucoup de psychothérapeutes de tout et n'importe quoi, et qui n'avaient absolument pas de formation. Pour les psychopraticiens, c'est la suite des psychothérapeutes. Finalement, en fait, ceux qui n'ont plus pu utiliser le titre de psychothérapeute sont devenus psychopraticiens. Mais il n'y a pas de formation, reconnue par l'État.
Exigée, oui, voilà.
En France, depuis 2010, le terme de psychopraticien désigne ceux et celles qui exercent la psychothérapie, mais qui ne peuvent pas justifier du titre de psychothérapeute. Ce terme recouvre un champ très vaste d'activités, allant de l'hypnothérapie à la sophrologie, en passant par le coaching ou l'art-thérapie. Beaucoup de ces praticiens ont suivi des formations au sein d'organismes agréés et ont été formés à des méthodes reconnues par des fédérations. Mais le titre de psychopraticien n'est pas protégé. Par conséquent, n'importe qui peut y prétendre. Bon alors, comme t'es qu'à contact et qu'aujourd'hui tu peux pas aller à l'école, ça te dit de faire un petit stage radio?
Oui!
Quelques jours avant notre rencontre, Coralie Chambon m'a demandé par mail s'il était possible le jour de l'interview d'évoquer une mesure adoptée récemment par le gouvernement d'Emmanuel Macron concernant la prise en charge des consultations de psychologues. Je pensais que la thérapeute se réjouirait d'annoncer aux auditeurs un accès facilité aux soins, surtout dans un contexte de crise sanitaire anxiogène, mais pas du tout.
À la différence du psychiatre, le psychologue n'est pas un médecin.
Non.
Jusqu'à présent, la Sécurité sociale ne remboursait pas la consultation d'un psychologue exerçant en libéral, à la différence des consultations d'un psychiatre. Mais à l'issue des assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui sont tenues en septembre 2021, le président de la République a annoncé une mesure concernant la prise en charge de séances chez le psychologue en ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette mesure ?
Alors, cette mesure a fait beaucoup, beaucoup de bruit, en fait, dans le monde de la psychologie, et notamment chez les psychologues libéraux, parce que, alors, la démarche, au départ, elle est louable, elle est intéressante, parce qu'elle est aussi pour pouvoir permettre un petit peu de désencombrer les CMP.
CMP, Centre Médico-Psychologique.
CMPP.
CMPP, Centre Médico-Psychopédagogique.
Ce type d'établissement qui propose justement des consultations gratuites, mais qui, bon, pour le coup, aujourd'hui, sont à 2 ans, 2 ans et demi d'attente. Encore, c'est un minimum, je pense. Donc, ben, vous comprenez bien que sur des difficultés de l'ordre de psychologie, c'est trop long, quoi. Même pour les enfants, c'est encore pire. Et il se trouve, si vous voulez, que cette mesure, en fait, les psychologues en général sont donc pour le remboursement des séances de psychologie, mais pas dans les conditions qu'ils nous le proposent, pour plusieurs raisons. Pour les premières raisons, en fait, ça va être qu'il est extrêmement sélectif, c'est-à-dire que tout le monde n'y aura pas accès. Les seuls qui pourront y avoir accès, donc ça c'est les petites lignes, hein, ce sont ceux qui ont des pathologies extrêmement légères, donc à partir du moment où, dans l'année, vous avez eu un traitement d'ordre benzodiazépine, donc antidépresseur ou autre, ou anxiolytique, vous n'y avez pas le droit. Si vous avez eu un choc traumatique, vous n'y avez pas le droit. Si vous avez eu donc un viol ou une agression, vous n'y avez pas le droit. Si c'est de l'ordre d'une dépression grave, vous n'avez pas le droit. Si c'est de l'ordre, en fait, d'idées suicidaires, vous n'y avez pas le droit. Tout ce qui va amener l'idée, en fait, d'une thérapie qui peut durer dans le temps, vous n'aurez pas accès au remboursement du psychologue. Donc c'est extrêmement exclusif. Ensuite, ça va être aussi donc, le rapport en fait, à la paramédicalisation du psychologue, qui n'est pas un paramédical, hein. Nous ne sommes pas acteurs de soins, de santé. On est psychologue, on est dans une catégorie en fait, de cet ordre-là. Et le problème de ça, si vous voulez, c'est que ça va demander aux patients un parcours de soins extrêmement compliqué. Déjà, le fait de prendre rendez-vous chez un psychologue, c'est pas une démarche qui se fait comme ça. C'est pas comme aller voir son médecin, malgré tout. Et là, ça va demander aux patients de, une part, aller voir son médecin, qui va délibérer de savoir si effectivement la personne a besoin ou non d'une psychothérapie. Ensuite, il va venir voir le psychologue, il va faire une évaluation. Donc c'est-à-dire qu'on devra rendre un compte au médecin traitant, donc on devra dire ce qu'il en est de la pathologie ou de la problématique de la personne au médecin, donc rendre des comptes vis-à-vis de ce qui a été dit, ce qu'on ne fait jamais.
Oui, en termes de déontologie, voilà, exactement. C'est très très discutable.
Ensuite, il va falloir que le patient retourne voir son médecin pour pouvoir avoir 8 séances gratuites, comme ils le disent, quoi. Ce qui crée, bah, pour le coup, 2 voire 3 démarches difficiles. Et au bout des 8 séances, s'il faut continuer, il faut que le patient aille voir un psychiatre qui déterminera si effectivement on continue ou pas. Au-delà de ça, de notre position à nous en tant que psychologue, ben, le remboursement n'est pas du tout suffisant. Donc ce qui nous obligerait à nous, en fait, aussi de faire des séances extrêmement courtes, de l'ordre de 20 minutes. En 20 minutes, en fait, vous avez le temps de vous dire bonjour au patient. Parce que, bon, j'exagère, hein, mais dans les faits, il y a toujours un temps en psychologie où le patient il a besoin, très souvent, de ce temps pour pouvoir en fait se sentir à l'aise, pour pouvoir commencer à vraiment parler du fond du problème. Et c'est très souvent, en tout cas moi, dans ma pratique, au bout de 20 minutes, une demi-heure, que ça commence à se décanter. Donc vous comprenez que Faire des séances de 20 minutes, ça n'a aucun sens en fait.
Vous évoquez cet aspect puisque le texte de loi détermine un plafond à ne pas dépasser, c'est ça?
En termes de rémunération.
Rémunération. Ouais. Donc ce serait plutôt un effet d'annonce?
Complètement un effet d'annonce. C'est que un effet d'annonce. Et pour moi, en fait, c'est totalement politique, étant donné aussi à quel moment de l'année où il le fait.
Alors en France, est-ce que le titre de psychologue contraint le professionnel dans sa pratique? Est-ce qu'il a un protocole, une méthode à suivre?
Non. En fait, ça, c'est le truc aussi qui est très intéressant et qui, pour le coup, pourrait être empêchant avec, avec le remboursement tel qu'il le propose aujourd'hui. C'est-à-dire que le psychologue peut utiliser les méthodes qui lui paraissent être les bonnes, en tout cas, en fonction du patient qu'il a, en fonction de la pathologie rencontrée, en fonction de ce qui se passe, en fait, là, dans la thérapie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les obédiences dont on peut parler, finalement, ne sont que des outils. Et après, on pioche dedans en fonction des formations qu'on a pu faire aussi et de ce dont on pense qu'il va être nécessaire pour le patient. Pour une séance, par exemple, de MDR ou d'hypnose, enfin, vous ne faites jamais une séance de MDR, a priori, sans y passer presque une heure et demie.
Les initiales EMDR signifient Eye Movement Desensitization and Reprocessing, c'est-à-dire désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires.
Le MDR, il s'agit en fait d'une pratique qui est assez proche de l'hypnose finalement, mais qui utilise le champ oculaire et d'accord, qui va permettre justement de travailler tout ce qui est traumatisme. Quand il y a des traumas, effectivement, il y a une reconnaissance quand même de cette méthode qui est assez intéressante, ou de l'hypnose d'ailleurs. Sur une thérapie en fait avec ce type d'outil, il faut au minimum compter une heure et demie. Donc 20 minutes, vous voyez, c'est empêchant, on ne peut pas mettre ça du coup en place. Qui va impliquer effectivement, encore une fois, que tout un tas de personnes en fait, ne pourront pas avoir accès à tout un tas d'outils. Et ce qui implique aussi une psychologie à deux vitesses. Donc il y aura ceux qui pourront payer et il y aura les autres.
À l'issue de l'entretien, j'ai réalisé quelques recherches sur le remboursement par l'assurance maladie de séances d'accompagnement psychologique. Ce dispositif s'appelle Mon Psy Santé. Il rentre en vigueur au printemps 2022. En dehors des considérations financières, je me suis demandé en quoi la mise en place de ce dispositif pouvait contraindre la pratique du psychologue, comme le craint Coralie Chambon. Les sites internet officiels qui communiquent sur le dispositif n'évoquent pas d'orientation thérapeutique particulière. Par contre, ils précisent que seuls les psychologues volontaires et sélectionnés seront conventionnés par l'assurance maladie pour participer au dispositif et figurer dans l'annuaire des psychologues partenaires. Pourquoi des critères de sélection? Pourquoi une convention, alors que depuis 1985, la profession de psychologue est réglementée par l'État lui-même qui exige un parcours d'études, de stages et l'obtention de diplômes spécifiques et reconnus?
Les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes s'intéressent tous à la psyché. En quoi est-ce que le métier de psychologue se distingue de celui de psychiatre, de psychanalyste, par exemple?
Pour moi, la psychanalyse est un outil. Donc c'est pourquoi je trouve dommage de n'utiliser que ça. Surtout à l'époque où on est et avec toutes les découvertes qui ont été faites ces dernières années sur tout un tas d'autres outils. Donc c'est intéressant aussi de s'ouvrir à d'autres choses. La psychanalyse peut très bien être utilisée aussi par un psychiatre, mais la plupart du temps, en fait, les psychiatres sont rares, il faut savoir ça, donc très demandés. Et donc, ils font des séances très courtes, ce qui implique qu'ils n'ont absolument pas du tout le temps de faire de thérapie. La plupart d'entre eux, mais pas tous.
Est-ce que le matériau sur lequel travaille le psychologue, d'une part, et le neuropsychologue, d'autre part, sont différents?
Oui et non. C'est-à-dire qu'en neuropsychologie, on va surtout travailler sur les comportements ou sur les difficultés d'apprentissage ou les difficultés liées à un trauma crânien ou une difficulté acquise ou innée dans le cadre d'une difficulté d'apprentissage. Moi, dans ma pratique, j'utilise la neuropsychologie essentiellement dans ce type de cas de figure, donc avec des enfants. Donc je suis spécialisée plutôt avec les enfants et non pas en fait avec les adultes, parce que c'est encore d'autres spécificités, c'est d'autres tests. Moi, je suis dans les troubles des apprentissages, Donc je vais plutôt en fait, utiliser la neuropsychologie dans ce domaine-là. Mais toutes mes connaissances en neuropsychologie me servent également aussi dans les thérapies que je peux effectuer avec certains de mes patients. Notamment pour expliquer comment fonctionne le cerveau et ce qui se passe pour eux. Permet très souvent aussi de mettre à distance certains problèmes et d'éventuellement aussi dédramatiser ou déculpabiliser en leur faisant comprendre que c'est pas une question de faute mais une question aussi de fonctionnement. Je pense notamment par exemple aux problématiques que peuvent rencontrer toutes les personnes qui sont HPI.
Haut potentiel intellectuel.
Qui ont aussi en fait leur spécificité neuronale et comportementale. Et qui ont très souvent aussi derrière des décalages, en fait, et qui peuvent être en souffrance de tout ça.
Est-ce à dire que le psychologue s'intéresserait essentiellement à la psyché, tandis que le neuropsychologue s'intéresserait en plus au cerveau, au fonctionnement du cerveau?
Voilà. Oui, alors le psychologue s'intéresse aussi au fonctionnement du cerveau. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, je pense... Beaucoup de psychologues s'intéressent aussi au fonctionnement du cerveau. Ça fait partie des études, je pense, qui sont... ou en tout cas de l'orientation de la psychologie aujourd'hui en France aussi, et dans le monde en général. Maintenant, la psyché ne doit pas être mise, en fait, de côté, et doit être, à mon sens, aussi tout aussi importante. Comme je vous dis, tout ça, ce sont des outils, et en fonction, en fait, des difficultés rencontrées par le patient, et aussi de ce qui va lui parler, aussi, à ce patient... On va plutôt aller vers tel domaine ou tel autre, quoi. Voilà, d'où le oui et non.
Pour autant, vous distinguez la psyché du cerveau.
Oui, je la distingue. Alors après, dans quelle dimension? Est-ce que... où est-ce que se trouve la psyché? J'aurais pas la réponse. Maintenant, on sait qu'il y a tout un pan quand même du cerveau qui ne sert qu'à l'émotionnel. Est-ce que la psyché est très, on va dire, est totalement départie de l'émotion? Je suis pas très sûre de ça. Je pense que tout ça est lié. Je vais pas vous dire en fait où se trouve la psyché dans l'humain.
J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chipée pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules. Il n'est pas taillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau.
Les troubles psychiatriques tels qu'ils peuvent être aujourd'hui, on va dire, traduits, ils sont essentiellement liés au fait aussi au fonctionnement cérébral. Dans la schizophrénie, vous avez un fonctionnement cérébral très particulier, dans la bipolarité aussi, dans la dépression aussi, et c'est pourquoi aujourd'hui existent aussi des thérapies électromagnétiques. Où on va venir stimuler par des chocs électriques le cerveau et les neurones. Alors c'est très lourd. Hein. Il ne s'agit pas de vous faire passer sur la chaise électrique. Hein. Très doux et enfin très doux. Voilà, mais c'est très bien fait, on va dire.
Et donc la question ne serait pas tant
où est-ce que ça se place.
Où est-ce que se trouve la psyché, que quelle est la cause, quelle est la conséquence des troubles qu'on observe au niveau du cerveau.
Les causes et les conséquences, ça aussi c'est un truc très compliqué, parce qu'aujourd'hui en fait on va aussi sur la question génétique, parce qu'il y a des preuves génétiques, on va dire, de certaines difficultés, ou de certaines particularités. Ça se vaut pour le HPI par exemple, ça se vaut aussi pour les troubles de l'attention, ça se vaut aussi pour certaines pathologies comme la schizophrénie, ça se vaut aussi pour... Il y a des choses qui se trouvent, mais en génétique on est encore des bébés, quoi. Donc en fait, malgré tout, les causes, c'est toujours encore des questions encore qui sont qui sont encore explorées.
Je sais que l'imagerie médicale a fait un grand bond en avant,
tout à fait.
Et pour autant, c'est pas évident de savoir si ce qu'on observe à l'image, ça détermine l'origine d'un trouble ou si ça...
Ou sa conséquence.
Voilà, c'est ça.
Je ne saurais pas vous dire.
Quelle est la méthode ou les méthodes spécifiques aux psychologues qui ne sont pas celles du psychiatre ou du psychanalyste.
Je dirais que la spécificité du psychiatre vis-à-vis du psychologue, c'est quand même déjà d'être médecin et donc d'avoir des prescriptions médicales. Mais il y a aussi, en fait, chez le psychologue, du coup, une spécificité quand même clinique. C'est-à-dire que dans notre formation, si on part, en fait, aux prémices, en fait, enfin, quand on commence à devenir psychologue ou psychiatre, dans notre formation, on a beaucoup plus de cliniques que les psychiatres.
Et tac.
On est très orienté, justement, vers la thérapie. Eux vont plutôt être orientés vers le médico, vers le médical et vers la médication. Bien qu'ils font aussi de la thérapie, je ne dis pas le contraire. Je ne renie pas ça du tout. mais ils vont plutôt être vers, finalement, le côté pathologique, ce qui ne va pas forcément être notre cas. On va plutôt être peut-être plus sur de l'analyse, notamment au niveau en psychanalyse, et sur aussi qu'est-ce qu'on fait, en fait, finalement, de ces difficultés et comment on peut aider la personne à améliorer, on va dire, son quotidien ou sa vie dans son présent pour l'amener, finalement, en fait, à y retrouver un peu de bien-être, quoi, parce que l'idée, elle est là, quoi.
Et le médium utilisé, c'est exclusivement la parole ?
J'aime beaucoup une phrase, je sais même plus où je l'ai entendue, je sais pas de qui elle est, je suis désolée, mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'il faut mettre des mots sur les mots pour que les maudits ne soient plus maudits, et je la trouve très jolie. C'est un peu ça, c'est-à-dire que de mettre les bons mots là où il y a des difficultés ou là où il y a des on va dire des incompréhensions sur soi ou sur le monde aussi, ça permet quand même, en fait, de redonner du sens. Et quand on a du sens, on sait quoi, souvent mieux quoi en faire. Et ça, ça change tout. Donc ça va être un outil plutôt, effectivement, autour de la parole, et de faire exprimer à la personne ce qui ne va pas. En fait, vis-à-vis de la psychanalyse, vous avez dans la psychanalyse plutôt une méthode qui va être orientée vers l'idée de faire émerger chez la personne ses propres solutions. Dans la psychologie en général, on va dire, on va plutôt être dans l'idée d'élaborer la solution avec le patient. Donc, les outils qu'on va utiliser peuvent aussi être des choses, en fait, enfin des méthodes ou des protocoles qui ont été utilisés, comme dans les TCC, par exemple. Dans les TCC, vous allez avoir des protocoles à mettre en place pour pouvoir...
Alors, vous pouvez expliquer pour les auditeurs, TCC ?
Alors, technique cognitivo-comportementale, qui implique, en fait, effectivement, dans ces protocoles, de mettre en place des étapes pour pouvoir travailler telle difficulté ou telle difficulté. Donc très, très souvent, moi, c'est vrai que les TCC, je les trouve très intéressantes dans les phobies ou dans les angoisses. Et après, bah, ça dépend tellement du patient. Moi, je trouve que c'est vaut mieux partir du patient. Après, c'est ma manière de travailler.
Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué la question des mots que l'on met sur les mots, ce sont les patients ou le psychologue qui les formule ?
Eh bien, ça peut être tout à fait les deux, mon point de vue, en fait. Parce que parfois, en mettant les bons mots sur ce que le patient vit, eh ben, ça donne, en fait, ça donne une consistance dans le réel, et ça donne aussi ce qu'on peut appeler un lightning, enfin, quelque chose, en fait, où ça va faire sens et débloquer tout un tas de choses derrière. Et c'est lui qui va faire les sens derrière. Maintenant, ça peut être aussi d'aider le patient à prendre conscience de certains problèmes. On peut utiliser différentes techniques pour pouvoir aller, par exemple, vers le lâcher prise. Ça, c'est un des trucs qui est le plus, je pense, le plus recherché. En fait, en psychologie, comme je vous ai dit, on utilise beaucoup des outils, différents outils. Moi, je sais que je me suis basée sur les thérapies d'impact, je me suis débasée sur les thérapies cognitivo-comportementales, je me suis basée sur les neurosciences, je me suis basée sur la psychanalyse. Dans ma formation de Master 2, j'étais extrêmement orientée vers ce qu'on appelle la psychologie d'orientation intégrative, donc où, en fait, on va essayer de prendre en compte tous les aspects, on va dire, qui puissent exister, et effectivement, après, derrière, aller vers ce qui va aider le patient au mieux, soit par des méthodologies qu'on apporte au patient, soit éventuellement, en fait, en accueillant ce que le patient a besoin de déposer. Ça dépend, en fait, de ce dont a besoin le patient.
Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait tel qu'il est, il me plaît. il écorimait ses épaules, par du carton, son rembourré. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crin.
Alors par contre, vous disiez, la psychanalyse n'est pas considérée comme une science. La psychologie, c'est une science humaine. Elle ne fait pas partie non plus
des sciences... La psychologie fait partie des sciences humaines, effectivement. Et si, elle se rapporte sur des méthodes scientifiques.
D'accord.
Et notamment la neuropsychologie en particulier, mais toute la psychologie en tant que telle. C'est-à-dire que dans le développement de l'enfant, on va avoir des méthodes et des protocoles scientifiques, des statistiques et autres, pour pouvoir déterminer des orientations. Mais on est un peu comme dans la médecine, vous êtes sur des statistiques et non pas sur des sciences dures comme la physique ou les maths. Enfin voilà, c'est pas du même ordre, mais on va être sur des tendances. Le premier exemple que j'ai, je me suis pas mal spécialisée moi dans les HPI.
Haut potentiel intellectuel.
Donc du coup en fait je sais par exemple que chez les HPI vous allez retrouver dans X pourcentage des cas, mais je dirais aux alentours de 80% je crois, je suis pas sûre, je suis vraiment pas sûre en fait du pourcentage, un cerveau avec un corps calleux qui est plus épais. Donc le corps calleux c'est cette partie du cerveau qui relie les deux hémisphères entre eux et donc qui implique deux choses, soit qui est plus de connexions, donc plus d'axones, donc entre les neurones, soit qui est plus de myéline. La myéline, ça va être en fait une gaine qui vient autour de l'axone et qui va accélérer l'influx nerveux, pardon. Et donc l'information va aller plus vite, en fait. Donc soit il y a plus de myéline, soit il y a plus de connexions. Et ça, c'est un truc très spécifique au HPI. Mais tous ne l'ont pas de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire ?
Si, c'est que ça...
C'est qu'on va prendre en fait un panel de HPI, ouais. On va en fait...
Des échantillons.
Voilà, un échantillon, qu'on va en fait... qui en fait on va faire passer par exemple un scanner ou un IRM, et on va déterminer en fait l'épaisseur effectivement du corps calleux vis-à-vis d'une norme, vis-à-vis en fait d'un panel de gens lambda, enfin tout le monde, tout inclus quoi.
Donc en fait la psychologie aboutit à des conclusions... suite à des observations et à des raisonnements de type scientifique.
De type normé. C'est ce qu'on fait par exemple aussi vis-à-vis du QI.
Elle vient de dire un gros mot là.
QI, ça veut dire quotient intellectuel.
Quand on fait passer un QI, on vous évalue vis-à-vis d'une norme. Vis-à-vis de tests qui ont été passés, qui ont été normés. Ce sont des questions qui ont été réfléchies vis-à-vis d'une littérature, qui ont été derrière... expérimentés, c'est-à-dire qu'ils ont été testés sur tant de personnes, et ensuite ils ont créé des normes vis-à-vis d'un panel de personnes, et ensuite on va pouvoir vous évaluer, vous, en fonction de cette norme, et vous situer dans la norme, donc sur une courbe de Gauss ou une courbe de normalité. Donc, on n'est pas dans une science dure, certes, c'est sûr, mais on fait partie des sciences. On a des protocoles scientifiques.
Alors le terme de norme, en parlant de psyché, ça fait un petit peu des frissons dans le dos.
Alors, c'est là, justement, qu'on se différencie de la psychanalyse. Parce que la psychanalyse n'est pas du tout dans quelque chose qui est réfutable. C'est le problème, hein, ou c'est le reproche qui a été fait à la psychanalyse. On ne peut pas réfuter les théories, donc elles ne sont pas réfutables, donc pas scientifiques. Il s'agit donc d'éléments d'observation, certainement, pour certains plans, mais pas réfutables, donc pas scientifiques. Maintenant, la question de la norme, elle n'implique pas forcément dans la thérapie des schémas, mais... Comment vous expliquer ? En fait, on va retrouver dans certaines pathologies des comportements qui reviennent, et donc ça, on va le normer vis-à-vis d'une autre norme. Maintenant, est-ce que ça dit que toutes les personnes qui ont telle pathologie ou telle difficulté ou tel trauma dans leur vie ont les mêmes comportements ou les mêmes difficultés ? Non, mais par contre, on va pouvoir en fait s'appuyer sur ça pour faire certaines hypothèses et amener éventuellement du sens, de la compréhension, de la difficulté que peut vivre en fait la personne actuellement. Soit ça lui parle, effectivement, en fait, peut-être qu'on touche quelque chose, soit ça lui parle pas, il faut aller vers autre chose. De toute façon, dans tous les cas, dans une thérapie d'ordre émotionnel, on va toujours aller vers l'idée de c'est le patient qui va guider, quoi. Par contre, quand on est vis-à-vis justement de normes, vis-à-vis de problématiques, par exemple de troubles des apprentissages, je vais quand même me baser sur des normes qui existent pour savoir s'il y a trouble ou pas. C'est là que je vais faire passer des tests, par exemple. Et donc, où je vais être très neuropsy. je vais faire passer des tests qui vont me permettre en fait d'évaluer si effectivement, vis-à-vis des enfants d'un tel âge, son niveau d'attention est par exemple très en dessous ou pas.
Et donc pour vous, définir une normalité, c'est pas un objectif à atteindre,
non,
mais c'est un outil. C'est un outil.
C'est toujours un outil. Quels outils on utilise ? Après, en fonction des difficultés qu'on peut avoir. Pendant longtemps, et c'est le problème, je pense, aussi d'exclure certains outils, c'est que si vous ne prenez pas en compte, par exemple, chez l'autisme, qu'il y a des difficultés d'inhibition, qu'il y a des difficultés de flexibilité mentale, qu'il y a des difficultés de cet ordre-là, alors à ce moment-là, vous pensez que vous pouvez faire une analyse du comportement qui est totalement à côté de ce qui se passe pour l'enfant.
Tel qu'il est, il me plaît, il me fait tout l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, c'est quinquet, son temps biais, c'est un fait. Tel qu'il est, il me plaît.
Regarde bien le micro, tu parles la bouche presque là.
Please number one.
Centre médico. Mais c'est pas drôle. On se concentre.
Mais je m'en fous, tel qu'il est, il me plaît.
Ainsi s'achève le très rapide tour autour de la sphère psy que nous avons entamé lors de la dernière émission. En compagnie du docteur Francis Pommier et de Coralie Chambon, nous avons fait des escales en psychiatrie, en psychologie, en neuropsychologie, en psychothérapie et survolé l'archipel des psychopraticiens. J'espère que cette brève exploration nous permettra dans les épisodes à venir de cerner un peu mieux les spécificités de la psychanalyse. Au chapitre 2, Francis Pommier affirmait que les psychiatres sont plus que la psychiatrie. Il laissait entendre que nombre de ses confrères veillent à garder des distances par rapport à une médicalisation excessive de la souffrance psychique. Des conventions passées entre l'assurance maladie et les psychologues inaugurent-elles la paramédicalisation de la psychologie en France ? Lorsque Coralie Chambon partira en retraite et qu'un curieux inquiet viendra l'interroger sur son métier, opposera-t-elle à son interlocuteur « Mais les psychologues sont plus que la psychologie ?» Coralie Chambon a étudié la psychanalyse au cours de ses études de psychologie. Mais pour elle, la psychanalyse n'est qu'un outil parmi toute une batterie de méthodes thérapeutiques. C'est en fonction des difficultés ou des besoins repérés chez le patient qu'elle opère un choix parmi ses diverses techniques. Certaines approches thérapeutiques reposent sur des normes, des tests, des mesures, des évaluations, des protocoles, l'imagerie médicale parfois. Quelle place ces approches laissent-elles à la singularité des êtres ? La singularité de l'être humain qui souffre et qui vient consulter, la singularité de celui qui est consulté parce qu'il est un être humain. Comment se situe la psychanalyse par rapport à ces méthodes ? Prenons un globe terrestre. Imaginons que les îles Vanuatu, situées au milieu de l'océan Pacifique, représentent ces méthodes. Ben, moi je dirais que la psychanalyse se situe du côté de la Gambie. Aux antipodes, quoi. Enfin, hypothèse à vérifier dans les prochains chapitres. Vous venez d'entendre le chapitre 3 dans Cours d'analyse, un podcast de Radio Chateaubriand. À cette occasion, vous avez pu écouter le morceau « Gambia » composé et interprété par la chanteuse et joueuse de cora Sona Jobartet, ainsi que « Tel qu'il est », une chanson signée Maurice Alexander, Charlis et Maurice Vander, interprétée par Fréhel. Plus d'informations sur le site radiochateaubriand.com.